France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Seltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Et depuis le 10 septembre, une actualité domine le paysage aux États-Unis comme en Europe, l'assassinat de l'influenceur trumpiste Charlie Kirk, un nom jusqu'ici quasi inconnu en France et qui est maintenant sur toutes les lèvres. L'occasion de mieux comprendre son parcours et sa place dans la sphère MAGA tout en décryptant ses canaux de communication, des débats publics plus ou moins scénarisé dans les universités, au podcast amplement relayé. Charlie Kirk appartient à une nouvelle génération d'influenceurs qui manie la provocation en rassemblant des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Quels sont leurs liens avec les partis politiques? Quelle est leur idéologie et leurs différentes mouvances? Et de qui ces influenceurs sont-ils les héritiers? Ils incarnent la fragmentation du paysage médiatique américain et le point de bascule entre acteurs traditionnels et nouveaux médias. Comment cet écosystème médiatique se recompose-t-il sous nos yeux? Il sera également intéressant de voir comment ce phénomène rayonne en France avec l'émergence de créateurs de contenu radicaux. En un mot, nous vous proposons une cartographie de l'influence de l'extrême droite en réseau. Et pour en parler, trois invités. Tout d'abord en studio, Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis et notamment des droites américaines. On vous doit Géopolitique des États-Unis, c'est paru chez Erol. À vos côtés, Sébastien Mort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en culture et société des États-Unis à l'université Paris-Nanterre et spécialiste des médias conservateurs et des talk-shows radiophoniques américains, auteur notamment de Onde de choc, histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux États-Unis, c'est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles l'an dernier. À distance depuis le Québec, Tristan Boursier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Montréal et de Sciences Po Paris. Vous travaillez sur la propagation des idées d'extrême droite en ligne et notamment la figure des influenceurs politiques de la France au Canada. Nouveauté pour ce troisième numéro de la Fabrique de l'Info, nous initions un partenariat avec l'hebdomadaire Courrier International. Chaque semaine, un ou une journaliste de la rédaction nous présentera un sujet et un média. Aujourd'hui, c'est Ingrid Tarwat qui est avec nous. Bonjour Ingrid.
Bonjour François.
Vous allez nous parler cette semaine
d'une lettre bouleversante écrite par une journaliste palestinienne qui a décidé de quitter Gaza.
On vous retrouve donc en fin d'émission. Chaque mois, la Fabrique de l'Information accueillera le rendez-vous avec la médiatrice de Radio France. Et ce premier rendez-vous a lieu aujourd'hui autour des réactions suscitées par le billet d'humeur de Guillaume Herner qui présente la matinale de France Culture. Son billet « Je suis Charlie Kirk ». Ça tombe bien, c'est donc notre sujet. On sera avec la médiatrice dans 30 minutes. En parlant de réactions, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur la chaîne YouTube de France Culture ou sur son compte TikTok, là où notre émission y est diffusée en images et en direct.
À mes chers compatriotes américains, je suis rempli de chagrin et de colère face à l'assassinat odieux de Charlie Kirk sur un campus universitaire de l'Utah. Depuis des années, les radicaux de gauche comparent des Américains merveilleux comme Charlie aux nazis et aux pires meurtriers de masse et criminels du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement.
Nous ne vivrons jamais dans une société où il y a des citoyens armés sans qu'il y ait un seul mort par arme à feu. C'est absurde, mais je pense que ça en vaut la peine. Malheureusement, je pense que ça vaut la peine d'avoir un coup de mort par arme à feu chaque année. En fait, je pense même que nous devrions rétablir les exécutions publiques. Il n'y a pas assez de personnes en prison dans ce pays. Quand les Noirs en Amérique n'avaient pas les mêmes droits qu'aujourd'hui, il y avait moins de meurtres et moins de cambriolages. Quand je vois un pilote noir, je me dis bon sang, j'espère qu'il est qualifié.
Assassiner quelqu'un qui croit au christianisme, qui aime sa femme et sa famille, qui a foi en Dieu, on ne peut pas justifier ça. La gauche, la droite, les gens doivent laisser tomber ces histoires. Mais tout ça, c'est à cause des médias. Les entendre, c'est toujours Trump, le bad guy.
Alors, je le disais en préambule, Charlie Kirk, tout le monde en parle aujourd'hui, mais soyons honnêtes, personne ou presque ne le connaissait en France il y a encore 10 jours. Nous avons d'ailleurs entendu beaucoup de choses sur son parcours dans les médias. Sébastien Mort, comment est-ce qu'on peut le situer et le définir?
Alors, ce qui me paraît très important de dire et qui est très intéressant dans son parcours, c'est qu'il est à la fois l'héritier d'une tradition de militance sur les campus républicains, qui est une tradition qui s'est mise en place dès les années 60. Donc, c'est un activiste de terrain, d'une part, et de l'autre côté, c'est un média-activiste, donc, qui est l'héritier de cette génération des talk-shows radiophoniques conservateurs, qui s'est mise en place à la fin des années 80, et qui a été, en fait, la pierre, la fondation, les fondements, en fait, de cet écosystème médiatique conservateur qui s'est déployé depuis les années 90. Donc, il a cette capacité, en fait, à circuler, à naviguer entre des espaces hors ligne et des espaces en ligne, et c'est ce qui lui donne toute sa force de frappe. Mais ce qui est assez singulier, c'est qu'il est vraiment pour moi l'héritier des pères fondateurs du talk show radiophonique conservateur. Quand il lance son émission, elle est lancée directement sur les ondes. Il passe pas du tout par le streaming.
Là, vous parlez du Charlie
podcast.
Kirk Show.
Je parle du Charlie Kirk Show qui a été lancé en octobre 2020, mais qui a été lancé en fait à la radio.
Oui.
Donc effectivement, c'est un enfant de l'ère numérique, mais le modèle de distribution et le format d'émission qu'il a lancé en 2020, c'est le même que celui de ses pères fondateurs. En fait.
Voilà, donc ça c'est très intéressant pour nous, la fabrique de l'info, parce qu'on voit qu'il y a une filiation comme un personnage de radio, finalement un homme de radio, même si là c'est l'utilisation du podcast, et puis vous nous avez très bien dit qu'il y avait aussi beaucoup d'émissions de radio à l'époque conservatrice, donc on est vraiment dans une filiation à la fois du contenu et du contenant. Et puis cette dimension donc IRL, in real life, dans l'espace public, puisqu'il menait de nombreux débats dans les universités, c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie. Tristan Boursier, j'imagine que depuis l'Amérique du Nord, est-ce qu'on est plus familier, est-ce que vous êtes plus familier du personnage de Charlie Kirk?
Alors, je dirais que ici au Québec, on l'a aussi un peu découvert dans les médias, mais on est plus proche physiquement, mais aussi médiatiquement de la sphère MAGA, puisqu'il faisait partie, c'était un soutien indéfectible à Trump et à la sphère MAGA. Donc c'est quelque chose qui avec lequel on est plus familier, mais en termes de stratégie médiatique et de positionnement surtout idéologique, il est relativement intéressant et assez inhabituel en tout cas dans la politique canadienne ici, puisque son positionnement, alors il y a eu plein de qualificatifs qui ont été utilisés pour le situer. Je dirais que son parcours de militance personnelle s'apparente à du nationalisme chrétien assez classique. Et après, quand on regarde par contre ses interventions dans les universités ces dernières années, là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus fluide d'un point de vue idéologique. Moi, je trouve que il se situe pas mal entre les trois pôles idéologiques à l'intérieur du Trumpisme, ou en tout cas de la sphère MAGA. Je trouve très pertinent la cartographie qu'en fait la politologue Marlène Laruelle. Donc ces trois pôles, ça serait d'un côté le national-populisme avec une culture directement fascisante, en tout cas avec la tradition américaine fascisante qui serait incarnée par Steve Bannon. Mm-hmm. On aurait un second pôle incarné par Elon Musk qu'on pourrait qualifier de techno-libertarianisme. Mm-hmm. Et un troisième pôle incarné par J.D. Vance, peut-être plus proche sans doute Charlie Kirk, puisqu'il incarne davantage un christianisme conservateur et voire même catholicisme intégriste, puisqu'il critique l'autorité du pape et ne reconnaît absolument pas Vatican II. Et donc Charlie Kirk naviguait pas mal dans ses interventions, notamment sur les campus, entre ces trois pôles-là, sans en forcément en montrer les contradictions, les tensions.
Merci pour cette boussole, cette reprise de ces trois pôles. Marie-Cécile Nave, est-ce que vous avez encore quelques mots pour préciser le profil de Charlie Kirk? On commence à arriver quand même à un portrait robot qui paraît assez précis.
Oui, c'est un influenceur et galvaniseur de foule qu'on peut qualifier d'extrême droite. On a entendu dans l'introduction certaines citations. Si je vois un noir qui pilote un avion, j'espère qu'il est compétent. Le cerveau des femmes noires est dysfonctionnel. Le rôle des femmes est d'être au foyer et d'obéir à leur mari. L'avortement est un holocauste. George Floyd était une ordure. Enfin bon, ça donne et tout est à l'avenant. Et donc quand je dis galvaniseur de foule, c'est-à-dire qu'il a été parfois décrit comme un débatteur, mais c'est comme vous l'avez très justement dit, les débats étaient quand même très très cadrés, très organisés, avec des sans doute des intervenants intervenants qui sont choisis. On n'est pas dans une conversation, on n'est pas dans une discussion argumentée. On est plutôt dans, on était, parce qu'il est mort dans d'horribles conditions, il faut le rappeler, on était plutôt dans la volonté d'écraser, d'humilier l'interlocuteur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Steve Bannon quand Trump a été réélu. Bannon qui dit la conversation, c'est terminé. La conversation, c'est fini. On n'est plus dans le débat argumenté, on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans un espace public démocratique.
Ça, c'est très intéressant. La conversation, c'est terminée. Est-ce que Sébastien Morse, c'était un simulacre, une illusion de débat, finalement ? Parce qu'on a beaucoup loué, justement, sa capacité à se déplacer, à aller en face de contradicteurs. Est-ce que c'était vraiment des contradicteurs qui étaient au même niveau que lui ?
Alors, oui, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est un simulacre, parce que quand on regarde le dispositif de ces débats, entre guillemets, on voit très bien que l'avantage était à Kirk. Les détracteurs étaient censés passer devant lui, lui entouré de la foule de ses soutiens. Donc il y a une espèce de d'asymétrie, de déséquilibre dans le statut, en fait, qui fait que bon, voilà, c'est plus une parodie qu'autre chose. Le but, en fait, c'est de mettre en scène, de spectaculariser les antagonismes avec les adversaires progressistes, et en fait de les jeter à la vindicte MAGA. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui s'inspire du dispositif précisément de ces talk-shows-là, qui sont des talk-shows sur lesquels l'animateur, l'animatrice a l'entier contrôle, où il n'y a pas de contradictoire, où la parole n'est jamais remise en cause, où on n'a jamais à remettre, à rendre des comptes. J'ai parlé de Rush Limbaugh tout à l'heure, le père fondateur, lui disait « Mon show est une dictature bienveillante, il n'y a pas de premier amendement, sauf pour moi. » Et donc, en fait, cette idée-là, elle s'exprime vraiment avec force dans ces débats, il me semble.
Alors, on voit que c'est comme ça quand même une spécificité américaine, ça, d'avoir ces émission au nom de l'animateur, au nom de l'animatrice. C'est pas nouveau, ça date pas des podcasts. Il y avait déjà ce genre d'émission à la télévision, notamment sur des chaînes conservatrices. En quoi, justement, ces nouveaux shows incarnés sont peut-être plus loin, vont peut-être plus loin que ceux historiques, je sais pas, de Tucker Carlson ou d'autres figures qu'on a pu connaître du paysage traditionnel?
Je pense qu'en fait, ils poussent cette logique Tout à l'heure, on a parlé d'une cartographie idéologique, mais ce qui me semble aussi important, c'est l'esthétique, en fait, du discours, c'est le style rhétorique. Parce que, avant tout, avant de véhiculer telle ou telle idée, le but, c'est vraiment de créer l'indignation, de susciter la colère, d'hystériser le débat, et en fait, d'activer l'affectivité des publics en manipulant des référents culturels qui sont très forts, en reformulant, à mon avis, les termes du débat les questions de débat selon des termes identitaires et d'activer en fait l'identité de la foule. Alors après, effectivement, je trouve que c'est très intéressant de cartographier l'idéologie, mais la rhétorique, le style rhétorique, ce style de l'indignation tapageuse qui est systématiquement assénée, c'est ça en fait qui fait la puissance de ces dispositifs, à mon avis.
Prouvez-moi que j'ai tort, hein, c'était sa phrase justement rituelle, et on voit que tous ces événements qui se jouent dans l'espace civique sont matière à contenu aussi pour ces podcasts et à contenu pour ces différents réseaux sociaux. Donc il y a quand même un circuit qui s'organise ici, à la fois de la circulation des séquences et des idées. Pour revenir justement sur le podcast, Tristan Boursier, on voit de plus en plus d'influenceurs faire du podcast, notamment chez l'extrême droite américaine. C'est un genre que vous qualifierez comment, ces podcasters stars qui, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années aux États-Unis ou peut-être encore davantage, et qui commencent à arriver en France?
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je suis complètement d'accord, le fond et la forme sont aussi importants. Et ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui ont des idées d'extrême droite, voire plus. Mais par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est la capacité à ces idées d'atteindre un public beaucoup plus large. Et effectivement, la forme de ces émissions, de les médias utilisés sont très importants, et le format podcast semble être devenu important, en tout cas ces deux dernières années, autant aux États-Unis que dans la sphère française et canadienne aussi. C'est quelque chose qui peut s'expliquer aussi par le modèle économique qu'on retrouve sur les médias sociaux, puisque le format podcast est déjà un format qui est moins coûteux à produire. Donc c'est des podcasts qui sont en général toujours filmés, même si les podcasts de Charlie Kirk étaient vraiment d'une très grande qualité, hein, il avait des moyens de production bien plus importants que beaucoup d'autres influenceurs, mais ça prend en général assez peu de moyens, et ça fait un rush, donc un un contenu qui est long. Les émissions de Charlie Kirk duraient plusieurs heures. On a en France des podcasteurs qui font même jusqu'à 3 heures, voire plus. Et c'est un format qui est surtout cross-plateforme. Il peut être découpé, segmenté, pour être diffusé sur différents médias sociaux, notamment sur TikTok, sur Instagram, et évidemment sur YouTube. Et donc, ça permet de toucher un plus grand public et aussi de mieux jouer, de mieux appréhender les codes de la viralité, notamment en sélectionnant des passages beaucoup plus outranciers, beaucoup plus choquants que d'autres.
On voit que là, il y a vraiment une stratégie d'investir la zone et toutes les plateformes, c'est-à-dire des formats longs pour YouTube, où il y a une volonté effectivement d'avoir une habitude d'écoute qui est longue, et en même temps des contenus viraux qui vont aller embrasser toute l'esthétique d'une plateforme comme TikTok, où d'ailleurs Charlie Kirk était très présent. Marie-Cécile Nav, vous qui suivez justement la politique de Donald Trump depuis longtemps, on en est à son deuxième mandat, comment... Oui, c'est ça. Comment il se sert justement de tous ces influenceurs qui ont, pour certains, une trentaine d'années, comment il s'en sert comme levier d'influence ?
Alors, juste un point pour prolonger ce qui a été dit. Si on n'envisage pas la question économique, on passe effectivement à côté de beaucoup de choses. C'est un modèle économique qui a été assez bien décrit précédemment. Et en plus, le clash, le buzz, l'insulte, ça fait monter ça attise les algorithmes, ça excite les algorithmes et ça fait monter sur les murs des différents internautes, gens qui regardent le stream, ces podcasts-là. Donc, c'est une économie de la violence, finalement, qui est assez, assez constructive. Et puis, tout ceci, c'est aussi permis par le premier amendement de la Constitution aux États-Unis, qu'on n'a pas en France, cette liberté d'expression, pas totale, mais quand même quasiment totale. Les propos de Kirk que j'ai cités tout à l'heure, en France, il y aurait quand même quelques petits problèmes.
Il tomberait sur le coup de la loi, voilà. Tandis que là-bas, ce free speech est vraiment revendiqué, justement, comme un parti pris très
exactement. Et le free speech qui aujourd'hui, peut-être on y reviendra tout à l'heure, est refusé aux adversaires, aux adversaires politiques. Ce que vous dites sur Trump, la question que vous me posez, c'est très important parce que Trump et Vance lui doivent beaucoup à Kirk et à ce type de streamer et podcaster. Ils le savent. Et Kirk, c'était un maillon. Nous, on le connaissait, nous qui travaillons sur les États-Unis, on le connaissait. On l'avait suivi beaucoup pendant la campagne et les années Mar-a-Lago, comme je les appelle, les années 2020-2024. C'était un maillon à la fois essentiel et emblématique de l'écosystème MAGA à plusieurs titres. D'abord, il est un des artisans du renouvellement générationnel de l'électorat trumpiste. L'électorat trumpiste plutôt blanc, plutôt masculin, plutôt peu diplômé de l'enseignement supérieur, même s'il allait dans les universités, mais quand même, c'est pas les diplômés des universités qui sont au cœur de l'électorat trumpiste. Il a beaucoup œuvré à rapprocher Vance de Trump aussi. Si Vance est aujourd'hui vice-président, c'est en partie grâce à Kirk, via les réseaux de la tech, via les deux fils aînés de Trump, c'est tous ces réseaux tech bro, etc.
Notamment avec la question des crypto-monnaies, le côté crypto-bro qui va,
ça
justement.
Ça aussi, ça rejoint la dimension libertarienne. Et puis, cette liberté de ton et cette viralité d'un discours qui a été vraiment beaucoup investi par le trumpisme depuis 2019-2020, ça n'a pas été la même chose de l'autre côté de l'échiquier politique. Et dans toute l'histoire de l'extrême droite occidentale, depuis les débuts de l'Internet, tout de suite, l'extrême droite a su capter toutes les possibilités offertes par le web pour s'en accommoder et pour diffuser ses idéologies. Donc, ça a énormément servi Trump. Et d'ailleurs, le fait qu'il demande que les drapeaux soient en berne plusieurs jours, comme si c'était Kirk, comme s'il occupait une fonction officielle.
Ce qui est assez inédit. Il est ni sénateur, il n'a pas été élu.
Comme si le pays était en deuil. Il en a fait une affaire personnelle. Vance, qui refait un épisode du podcast de Kirk dans ses bureaux de vice-président avec vraiment un mélange des genres totalement incroyable. Et puis, il a invité des grandes figures du trumpisme. Il y a une reconnaissance de la part de Trump et de l'écosystème Trump d'une manière générale, du rôle de ces influenceurs Internet qui sont en partie sortis de nulle part, comme s'ils étaient de véritables responsables politiques, et qui aujourd'hui occupent une place privilégiée dans la salle de presse de la Maison-Blanche, où les journalistes traditionnels sont éjectés. Et c'est même eux qui posent les questions quand il est avec Zelensky dans le bureau ovale. Donc on voit bien qu'il y a une reconnaissance de ces personnes comme si elles étaient des hommes politiques, des femmes politiques.
Une reconnaissance, une légitimité, effectivement, en leur donnant des droits. Mais c'est vrai que je trouve que ça n'a pas été assez commenté. Pourtant, c'est dingue, ça, ce Charlie Kirk Show qui, après sa mort, va donc être repris par J.D. Vance, qui va le faire depuis son bureau, qui va le reprendre à son compte. C'est quand même quelque chose de totalement inédit, ça, justement, dans l'histoire de l'imbrication entre les médias et le politique. Oui.
Et je crois qu'effectivement, c'est un des éléments les plus frappants de ce phénomène. En fait, c'est la porosité très très forte, pour ne pas dire l'intégration en fait des sphères médiatiques et des sphères politiques. Et si on reprend un peu l'histoire de cet écosystème là, au début dans les années 90, les deux sphères étaient très très distinctes et il y avait une très forte réticence des animateurs à apparaître comme trop proches du pouvoir. Donc ils s'en tenaient plus ou moins à l'écart. Et effectivement, leur idéologie était alignée sur les figures du Parti républicain, mais il y avait quand même cette idée que les leaders républicains sont issus de l'élite, qui ne sont pas forcément les représentants des idées du peuple, que peut-être ils ne partagent pas la vie et l'expérience des gens ordinaires, et que donc la viabilité commerciale de ces émissions, au départ, elle tient de leur positionnement contestataire. Donc on se tient à l'écart du pouvoir. Et au fur et à mesure que les années passent, et surtout la bascule, elle se fait avec Trump, il y a vraiment un rapprochement qui se fait, puisque la viabilité commerciale, elle vient maintenant de l'association à Trump. Autant c'était toxique d'être trop vu comme trop proche du Parti républicain dans les années 90-2000, maintenant c'est un gage en fait de succès, et plus vous êtes proche du pouvoir trumpiste, plus vous avez vous garantissez vos taux d'audience,
plus vous êtes monétisé quelque part, plus on se rapproche de Trump, plus on devient monétisable,
et le moindre mollissement dans le soutien à Trump et à la magasphère peut être vu comme une trahison, et à des moments ça provoque des migrations de téléspectateurs, comme ça a été le cas en fait à l'occasion de l'élection de 2020, quand Fox en fait a déclaré Biden le gagnant, il y a eu une migration massive de gens qui sont partis sur One American News Network, sur Newsmax, parce que c'était considéré comme une trahison.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce double phénomène, hein. Vous le disiez, un anti-système qui devient système. Donc ces médias, on va le dire, alternatifs, qui ont maintenant des gages de crédibilité, de légitimité, qui sont très proches, imbriqués avec le pouvoir. Et à l'inverse, les médias traditionnels, qui eux sont pointés comme des menteurs, sont pointés justement comme des médias qui ne font pas leur travail. Donc il y a aussi un désamour entretenu et une volonté de stigmatiser les acteurs traditionnels médiatiques. Et là, que ce soit Donald Trump ou Elon Musk, qui sont les premiers à le dire. D'ailleurs, je me rappelle de cette phrase d'Elon Musk qui dit « Nous sommes maintenant les médias. Les médias, c'est nous. » Donc c'est un désaveu total.
Marie-Céline Niav. Je vais dans ce sens-là, je vais même plus loin. Ce sont les médias dominants aux États-Unis. Les podcasts, les streams, ce sont les médias dominants. Et les médias traditionnels, entre guillemets, plient le genou aujourd'hui devant Trump, les uns après les autres, parce que ils ont besoin de l'accord du Congrès pour renouveler leur licence, parce qu'ils ont besoin de ne pas être censurés dans les projets de fusion, et on le voit avec la suppression du show de Jimmy Kimmel, par exemple.
On va justement en parler dans un instant, mais Tristan Boursier, vous qui êtes de l'autre côté, qui est en Amérique du Nord, je le rappelle, au Québec, hein, c'est pas totalement les États-Unis, mais on va dire que vous êtes à un poste d'observation avancé. Ce que vient de dire Marie-Cécile Nave, on en est là, c'est-à-dire on en est à un moment, ce qui n'est pas encore le cas, je trouve, chez nous, même si la télévision, il y a une érosion de l'audience, il y a une érosion des médias traditionnels, on est bien placé pour le savoir en travaillant dans ces médias-là, mais néanmoins, il y a encore la force d'un journal télévisé de 20h, du 13h, qui rassemble de moins en moins, mais qui est quand même là. Est-ce qu'aux États-Unis, on est arrivé à un moment où finalement, même cette fonction-là de repère n'existe plus?
Ouais, ce qui a été dit est très important. C'est pas nouveau que l'extrême droite utilise les nouvelles technologies, notamment Internet, pour prendre la parole, parce que ça leur permet d'avoir un accès désintermédié à un nouveau public. Et effectivement, on ne peut pas les comprendre si on ne les intègre pas dans l'écosystème médiatique général, et comment leur place dans cet écosystème-là a évolué au cours du temps. Et c'est quelque chose, cette place-là, elle a changé aussi, on la remarque ici aussi au Québec, et évidemment en France, avec l'apparition de médias, de radios, voire de chaînes télé, qui reprennent des codes médiatiques de l'outrance, de l'exagération, et qui favorisent une ligne politique de plus en plus d'extrême droite. Et l'existence de médias qui ont une plus grande légitimité, en tout cas d'un point de vue de l'audience, puisqu'ils ont accès à des canaux traditionnels de diffusion, combiné à la présence de ces influenceurs qui jusqu'à présent étaient dans des niches médiatiques, leur permet d'avoir un relais beaucoup plus large et d'avoir donc une audience beaucoup plus grande. Moi, en France, j'ai observé la prise d'ampleur des influenceurs français d'extrême droite. au moment où Papacito s'était mis en scène dans une vidéo en train de tirer sur un mannequin qui représentait un électeur de la France insoumise. Avant ce moment-là, ça a été un moment pour moi charnière en France dans leur popularité, ils étaient assez peu connus, ils touchaient un public relativement contenu de personnes sans doute déjà plus ou moins convaincues par leurs propos. À ce moment-là, des grands médias ont commencé à parler de ces influenceurs-là, y compris des médias qui en parlaient donc pour les critiquer, mais des médias aussi complaisants. Et je pense notamment à l'émission de Cyril Hanouna qui a joué un rôle important puisqu'il a carrément invité certains de ces influenceurs, je pense à Baptiste Marchais, à Thaïs Descuffon, sur son plateau. Et donc ça leur a donné un porte-voix vraiment inimaginable pour eux.
Avant de donner la parole à Marie-Cécile Nave, quand même, pour nos auditeurs qui ne naviguent pas dans ces sphères-là, vous nous rappelez Papacito en trois mots qui il est ? Tristan Boursier.
Oui, donc Papacito, donc c'est un influenceur français, enfin influenceur dans la mesure où il officie globalement sur les médias sociaux. Il a aussi publié, édité des livres, des bandes dessinées. Et idéologiquement, en général, c'est assez difficile parce qu'il fait beaucoup de, il présente beaucoup ses positions avec l'humour, avec le trait de l'humour, mais il a des propos extrêmement violents. Il critique la République, la démocratie. Enfin, en tout cas, il remplit les trois critères classiques de l'extrême droite, c'est-à-dire opposition à la démocratie, valorisation de l'autoritarisme et une vision de la nation nativiste, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut faire partie de la nation. Il faut avoir des liens du sang, voire des liens raciaux profonds.
Marie-Cécile Nave.
Non, je voulais juste ajouter un point sur le fait que c'est vrai que Trump a voulu faire un hommage, une sorte d'hommage national à Kirk et caresse tous ses podcasteurs dans le sens du poil. Ça ne veut pas dire qu'ils lui sont toujours acquis, y compris les podcasteurs d'extrême droite. On l'a vu et on le voit encore avec l'affaire Epstein. Avec l'affaire Epstein, il y a un certain nombre de streamers et de podcasteurs qui se sont détachés de Trump parce qu'ils sont tellement dans les l'idéologie complotiste ils voient le mal partout, des complots partout, que dans cette affaire Epstein, Trump, il est quand même un peu empêtré et il est lui-même parfois pris au piège d'un phénomène qu'il a non pas créé, mais largement amplifié, qui est le complotisme sur l'élection volée, soi-disant volée de 2020, etc. Et donc sur Epstein, il est quand même bien... on n'en parle plus trop en ce moment, mais cette affaire lui colle au basque, si je puis dire, et là-dessus, il n'est pas soutenu par l'écosystème des podcasts à l'extrême droite.
Effectivement, parce que là, il s'agit quand même aussi de pédocriminalité. On sent que c'est un récit récurrent dans la sphère complotiste. Donald Trump, il y a cette fameuse lettre, il y a des liens avec Epstein. Donc, entre ceux qui veulent qu'il y ait plus de lumière sur cette histoire-là, ceux qui le lâchent et ceux qui, au contraire, ferment les yeux, on voit qu'effectivement, il y a différentes chapelles. Et ça, on a moins cette notion-là lorsqu'on est vu d'ici en France. Mais évidemment, dans cette nébuleuse, il y a des guerres intestines, il y a des combats, il y a des chapelles.
Oui, alors c'est vrai que l'affaire Epstein, c'est peut-être un moment charnière où on voit se créer des dissensions. Une des bonnes raisons, c'est qu'effectivement, l'idée qu'il existe des réseaux pédocriminels qui agissent avec l'aide et la complicité des démocrates, c'est un des éléments structurants du discours de la magasphère depuis plus de 10 ans.
On se rappelle avec Hillary Clinton, déjà, il y a eu beaucoup d'affaires.
Le Pizzagate, etc., etc.
Sauf que là, c'est vrai.
Sauf que là, c'est vrai, oui.
Quand on regarde justement ce contexte américain qui était déjà fragmenté, on a l'impression qu'il est encore que ce phénomène s'amplifie. Tout de même, apprendre que Jimmy Kimmel, qui est une institution quand même aux États-Unis, cet humoriste est suspendu d'antenne jusqu'à nouvel ordre pour des propos qui ont été tenus, on va dire des propos nuancés, qui revenaient finalement sur l'attitude et la récupération politique de cet assassinat par Donald Trump. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA qui s'efforce de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre que l'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique.
48 heures plus tard, la chaîne ABC annonce la suspension de Jimmy Kimmel pour une durée indéterminée. Une décision saluée par le président des États-Unis.
Excellente nouvelle pour l'Amérique. L'émission de Jimmy Kimmel, en difficulté au niveau des audiences, est annulée. Félicitations à ABC pour avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Jimmy Kimmel n'a aucun talent.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Qu'est-ce que ça dit, ça, Sébastien Maure, la suspension de Jimmy Kimmel, de la fragilité de ces grands réseaux quand même américains? On a l'impression que maintenant, ils sont dans une forme d'allégeance, on peut le dire, à l'égard de Donald Trump.
Oui, effectivement. En fait, il y a une opération de muselage des voix dissidentes qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de s'accélérer. Le positionnement contre les médias dominants, c'est un invariant du conservatisme depuis sa résurgence dans les années 50. C'est quelque chose qui s'est déployé au fur et à mesure des années avec la radio, avec Fox. Mais là, en fait, on voit qu'en termes d'échelle, ça prend une ampleur beaucoup plus forte. Et effectivement, la mort de Kirk, enfin l'assassinat de Kirk, à la fois crée un martyr, mais ouvre des fenêtres d'opportunité pour museler les médias et de mettre vraiment en action des menaces qui avaient été un peu voilà, récurrentes au moment du premier mandat, mais qui là, en fait, prennent une teneur tout à fait concrète, puisque cette menace de représailles est devenue en fait une représaille effective. Alors, indirecte, puisque ça a été par le biais d'une pression sur le patron de Walt Disney qui s'est exécuté, en fait. Donc, il y a aussi...
Parce que c'est la chaîne ABC voilà, qui appartient au groupe
Walt Disney. Au groupe Disney. Mais c'est vrai que là, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de liberté d'expression à deux vitesses, il y a un deux poids, deux mesures, puisque ce qui s'applique à Kirk dans ses diatribes eugénistes et anti-trans ne s'applique pas aux propos qui sont franchement très... qui font pas le figure, je veux dire, les propos de Jimmy Kimmel font pas le figure à côté.
On les a écoutés, je les ai relus, effectivement, il n'y a pas quand même de quoi être... Enfin, en tout cas, c'est une décision qui paraît avec deux poids, deux mesures, et puis elle s'inscrit dans tout un nombre de journalistes qui ont été renvoyés, mis de côté, ou encore Stephen Colbert, dont son fameux Late Show va s'arrêter dans quelques semaines, en janvier de 2026. Marie-Cécile Nave, est-ce que c'est le signe aussi donc, de tous ces grands canaux, ces distributeurs, ces chaînes, ces éditeurs? On l'a vu d'ailleurs avec l'arrivée de Donald Trump lors de son second mandat, on a vu ces grands patrons venir finalement à ses côtés, parfois pour certains subventionner même sa cérémonie d'investiture.
Il était en Angleterre aussi ces jours-ci avec lui.
Exactement. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire que l'espace numérique, vous l'avez très bien dit, l'extrême droite avait de toute façon de l'avance dans cet espace-là au moment où ils étaient un peu anti-système. Ils sont allés sur ce créneau-là pour pouvoir trouver une voie. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont très très présents. Et maintenant, l'espace traditionnel, lui aussi, soit est fragile, soit tombe, soit fait allégeance.
Ils n'ont pas de patron, ils sont libres, les podcasteurs. Alors que les chaînes de télé, c'est des histoires de gros sous. C'est Disney qui veut racheter Fubo, par exemple, je ne connais pas la prononciation exacte, Paramount qui a aussi besoin de l'approbation du monde économique pour acheter, pour fusionner avec Skydance. Enfin, c'est des histoires d'argent, et donc c'est un peu le fusible Kimmel ou Colbert pour pouvoir donner une sorte de gage qui n'a pas trop de conséquences, on pourrait dire. Enfin, on verra, afin de s'attirer la bonne presse du Congrès et de Trump. C'est intéressant parce que du côté de Trump, on prône la dérégulation économique, sauf quand il s'agit de faire taire les critiques. Donc c'est des grands principes, mais pas pour moi.
Sébastien Maure.
Je crois que oui, c'est pas étonnant. Enfin, c'est pas innocent aussi de censurer l'animateur d'un late night show. Donc d'une émission satirique de fin de soirée, parce que c'est proprement un des espaces de la contestation et de l'opposition à Trump. Toutes les émissions dont on vient de parler, donc la radio, la télé, Fox, les espaces numériques, ce sont des choses qui marchent très bien à droite. Mais à gauche, en fait, ce format-là ont été essayés et ont toujours échoué. Le format politique de prédilection des progressistes, c'est le late night show. Donc, en fait, en suspendant...
Par le prisme de l'humour, justement, voilà, on fait passer des messages politiques.
Parce qu'effectivement, l'approche du discours n'est pas le même. Et l'ironie et la satire, ça marche beaucoup plus auprès des publics progressistes. Donc, c'est effectivement une façon de neutraliser un espace de contestation. À la suite, en plus, de la suspension de Stephen Colbert. Donc, ça veut dire deux figures vraiment importantes du Late Night Show qui disparaissent.
Vous qui avez une perspective historique, est-ce que c'est juste, on peut considérer ça juste comme une parenthèse? Est-ce que ça s'est déjà produit, justement, dans l'histoire des médias aux États-Unis d'avoir un mouvement comme celui-ci, puis finalement, 5 ans, 10 ans après, ça se restructure différemment?
Vous voulez dire de suspendre?
Exactement.
Moi, je crois que c'est sans précédent.
Ouais.
C'est absolument sans précédent. Parce qu'en plus, le motif qui est invoqué, c'est qu'on ne connaît pas l'allégeance politique du tueur, qu'en fait, non, il s'est quelqu'un de gauche. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le propos de Kimmel, il est protégé par le premier amendement. Il ne fait pas partie des 8 exceptions aux protections accordées par le premier amendement, et que donc c'est une violation pure et simple par le président d'une agence fédérale qui est censée être garant justement de l'équité dans les médias. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument inédit, il me semble, dans l'histoire.
Tristan Boursier, sans précédent, vous êtes d'accord avec ces mots qui viennent d'être prononcés ?
Ah oui, pour moi aussi, ça me stupéfait complètement. Enfin, c'est inouï. On a l'habitude d'appeler les médias le quatrième pouvoir. On savait déjà que Trump remettait en cause la séparation des trois pouvoirs traditionnels, donc législatif, exécutif et judiciaire. Mais sans doute, la brutalisation la plus forte et la plus utile aussi pour lui dans son accession au pouvoir, ça a été ce travail médiatique de création d'un écosystème et de démantèlement des opposants qui pouvaient s'exprimer dans les médias traditionnels. J'avais aussi en tête le procès, je crois qu'il demande 15 milliards, il me semble, de tête au New York Times. Donc ça aussi, il me semble que c'est des sommes qui sont sans précédent de la part, en plus, d'un président des États-Unis en exercice. C'est stupéfiant.
Marie-Cécile Nave.
Oui, d'un côté, Charlie Kirk est décrit par les MAGA, les Make America Great Again, comme un adepte du débat, ce qu'il n'était pas. Et d'un autre côté, sa mort est instrumentalisée pour faire taire toute forme de discours contraire au discours officiel. Donc le free speech qui a été tant vanté par la campagne de Trump, disant, au nom du free speech, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est les valeurs de l'Amérique, etc. Le free speech maintenant se transforme en « taisez-vous ». Et donc, c'est quand même tout à fait stupéfiant et ça sidère le débat public américain aujourd'hui.
Un taisez-vous et je vais vous faire taire, hein, puisqu'on rappelle aussi toutes les initiatives qui ont été entreprises, notamment comme Laura Loomer, aussi une influenceuse d'une trentaine d'années qui a pointé tous celles et ceux qui ont émis juste un discours nuancé ou qui ont mis en perspective la violence des propos de Charlie Kirk, comme on a pu les entendre d'ailleurs au démarrage de cette émission, et qui ont perdu leur travail parce qu'il y a eu une campagne d'harcèlement et de volonté de shame, hein,
doxing.
De doxing, exactement.
Oui, non, je voulais revenir sur ce qui avait été dit. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre que dans la conception MAGA et dans la conception des soutiens de Trump, en fait, l'époque qu'on traverse, en fait, c'est une situation de crise. Et que, en fait, les États-Unis, leur identité, leur société sont à la merci de forces subversives qui sont alimentées par les progressistes. Donc, en fait, dans leur conception, c'est pas un muselage de la liberté d'expression, c'est la juste réaction à des menaces dont il faut se débarrasser. Dans le discours des animateurs conservateurs à la radio, à la télé, quand on parle des démocrates, il y a toujours un moment où quelque part on a l'impression que c'est une force d'occupation et que leur présence dans le débat elle est illégitime, et qu'elle est illégitime parce que ils sont porteurs de valeurs et de visions du monde qui sont anti-américaines. Et que j'ai essayé d'expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation où on revendique un fondamentalisme du premier amendement pour soi-même et on muselle son adversaire.
Vous avez évoqué justement tout à l'heure que ces influenceurs ou ces créateurs de contenu progressistes, démocrates avaient du mal à percer ou à être présents sur l'espace numérique. Comment on l'explique quand même ? Parce que finalement, il y aurait une sorte de dérégulation qui permettrait tout de même de créer son podcast, d'arriver sur des plateformes. Alors vous allez me dire, il y a certaines plateformes qui sont orientées politiquement, qui pourraient invisibiliser certains propos, mais tout de même, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des papacitos démocrates ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas justement des Charlie Kirk démocrates progressistes ?
Alors il y en a à gauche du Parti démocrate, voire tellement à gauche pour dire le Parti démocrate qu'ils sont en dehors du Parti démocrate. Donc il y en a quand même qui sont influents au sein de la jeunesse progressiste, mais effectivement le modèle économique de la violence verbale, de la haine, de la désignation d'ennemis intérieurs, ben, c'est pas au cœur de cet écosystème-là. On est plutôt dans une volonté, certes, de présenter un discours engagé, mais qui ne s'appuie pas sur ce modèle économique du buzz qui est valorisé par les algorithmes.
Tristan Boursier, une réaction sur ce sujet ?
Oui, bah tout à fait. Ben on a d'ailleurs pas mal d'études qui documentent la prime à l'outrance, la prime à la violence faite sur les médias sociaux. On a par exemple Jen Schrady, qui est une chercheuse à Harvard, je crois que c'est en 2019 qu'elle a fait ses premières études sur le sujet, qui montrait que quand on avait des opinions affiliées à l'extrême droite, réactionnaires, on avait tendance à être beaucoup plus visibilisé sur les plateformes.
Il y avait sa fameuse expression qui était de dire que Internet est de droite, effectivement.
Voilà, et on peut le comprendre avec l'idée d'économie de l'attention. Le but de ces plateformes, c'est de maximiser le temps d'écran de leurs utilisateurs et de vous montrer des choses, pas forcément qui vous intéressent, mais qui vont vous faire rester sur les écrans. Et donc, les contenus les plus choquants, les plus outranciers, ont intérêt à être diffusés dans la mesure où ils font réagir les utilisateurs, ils vont susciter du clic, ils vont susciter des commentaires, etc., etc. Ce qui va viraliser les contenus et maximiser le temps d'exposition des publicités, puisque in fine, le modèle économique de ces plateformes repose beaucoup sur la publicité. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, en tout cas sur les médias sociaux, une prime à la radicalité d'extrême droite.
Je pense que c'est important effectivement d'éclairer tout le modèle économique. Ici, il n'est pas uniquement question d'idées, il est question d'un écosystème avec une forte audience, une part de responsabilité aussi peut-être des annonceurs qui vont venir sur ces contenus-là pour investir un espace et puis essayer de toucher des cibles. On en parle un peu moins. Il y a aussi la question des infrastructures aussi, de ces serveurs, où est-ce qu'ils sont situés, localisés. Il y a tout un écosystème effectivement marchand qui est pour beaucoup dans l'émergence de ces nouvelles figures. On va continuer à parler de ce sujet et aussi de sa résonance ici dans le paysage français avec les influenceurs. Mais je voulais annoncer en début de cette émission, on accueille chaque mois le rendez-vous de la médiatrice de Radio France qui, ça n'arrivera pas tout le temps, mais cette semaine qui est finalement consacrée à notre sujet, puisque Emmanuel Davier va revenir avec Guillaume Herner sur l'une de ses humeurs qui a fait réagir les auditeurs de France Culture. On l'écoute.
Guillaume Herner, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Nous revenons avec vous sur votre billet qui est Charlie Kirk. Après vous avoir écouté vendredi dernier dans la matinale, les auditeurs ont été nombreux à réagir. Tous condamnent fermement le parallèle établi entre les victimes de Charlie Hebdo et Charlie Kirk. Ils estiment que défendre la liberté d'expression ne peut pas signifier mettre sur le même plan des dessinateurs engagés et un influenceur d'extrême droite dont les propos racistes, homophobes, sexistes ou suprémacistes ont alimenté la haine et parfois justifié la violence. Guillaume Herner, quelle était votre intention en choisissant ce titre et ce parallèle entre Charlie Hebdo et Charlie Kirk ?
Alors écoutez, si les réactions sont celles-là, et je les ai entendues, c'est que je me suis planté, c'était une erreur ce papier, et je le regrette, et d'ailleurs assez rapidement, on a changé le titre sur le site. Mais juste pour vous donner des éléments de contexte, comme on dit Emmanuel, moi j'ai écrit depuis que je suis à Radio France 3548 papiers, puisque je les numérote chaque jour. Et ces papiers... C'est un exercice compliqué parce que, notamment depuis que je suis à la matinale de France Culture, c'est-à-dire depuis 10 ans, ça s'appelle une humeur, donc ça n'est pas un édito, mais je comprends que certaines personnes puissent imaginer que c'est l'opinion de la station. Or, la station, elle n'a pas d'opinion. Donc, je dois faire quelque chose qui soit évidemment quelque chose de consistant, puisque parfois on me reproche de ne pas faire de papier sur certains sujets. On m'a reproché par exemple de ne pas faire de papier sur le salut nazi d'Elon Musk. Mais je ne peux commenter que l'actualité en essayant de trouver des angles. Et cette nuit-là, l'actualité, notamment aux États-Unis, c'était Charlie Kirk avec des réactions importantes, notamment une réaction de Bernie Sanders et une autre réaction d'un journaliste du New York Times, Ezra Klein. Et ces deux hommes disaient la chose suivante en substance. Ils disaient, voilà, on était évidemment en désaccord avec les opinions de cet homme, mais aux États-Unis, il n'enfreignait pas la loi et on pense que l'assassinat politique est non seulement quelque chose qui n'est pas un mode de régulation des débats en démocratie, mais de surcroît est une sorte de pente glissante dans laquelle file l'Amérique. Et c'est finalement l'idée que j'ai essayé de faire passer, maladroitement, puisque j'entends les réactions, avec un titre qui n'est pas n'importe quel titre, Charlie Hebdo. J'ai été journaliste 8 ans à Charlie Hebdo, juste après l'attentat. J'aurais dû être dans ce canard juste avant, mais Charb a oublié de m'appeler. Durant les 8 années que j'ai passées à Charlie, il n'y a pas eu une semaine, allez, il n'y a pas eu un mois sans qu'on ait une polémique de ce genre, où on était traité de raciste, où on était traité de d'islamophobe. Bref, c'était quelque chose de quasiment récurrent, avec là aussi des charges extrêmement violentes. Certes, nous ne l'étions pas, évidemment, mais dans l'esprit des gens, nous l'étions. Et la seule chose que je voulais dire, c'était pas, non pas un parallèle, mais essayer de remettre dans un contexte.
Alors, vous défendez l'idée qu'il faut protéger la liberté d'expression, même de ceux avec qui nous sommes en profond désaccord. Mais pour beaucoup d'auditeurs, cela brouille les repères. Jusqu'où peut aller cette liberté d'expression et où situez-vous la limite lorsque cette parole incite à la haine ou légitime la violence?
Alors, c'est la raison pour laquelle, comme on se situe dans le contexte américain, j'ai voulu justement, comme on le fait d'ailleurs à France Culture, consacrer un visage de l'actualité à un Charlie Kirk. Vous savez, les visages de l'actualité, ce sont les podcasts que l'on fait. Et donc, j'ai pris à la fois des gens qui avaient un avis très tranché sur Charlie Kirk pour et contre, et puis deux experts pour essayer de voir justement dans quelle mesure cette question de la liberté d'expression, cette question aussi de mise en contexte, parce que, vous voyez, par exemple, le débat sur les armes, en France, il paraît complètement baroque, mais aux États-Unis, c'est un débat qu'on peut tout à fait avoir, et des gens qui ne sont pas considérés comme des criminels revendiquent le droit de porter des armes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était très utile de faire ce supplément, qui est là aussi une forme de prolongement du billet que j'ai fait.
De nombreux auditeurs dénoncent un contresens historique, je les cite, estimant que les journalistes de Charlie Hebdo ont été tués parce qu'ils exerçaient leur liberté de critiquer, tandis que Charlie Kirk est mort victime d'un système de violence dont il faisait lui-même la promotion. Comment répondez-vous à cette critique?
De toute façon, si vous voulez, quelles que soient les opinions des uns et des autres, la liberté d'expression, ça ne peut pas être la liberté de mon expression. Dans le cas, effectivement, où il y a des expressions qui font mal, des mots qui tuent, parce que les mots qui tuent, effectivement, existent, notamment les appels à la haine, le mode de régulation classique, c'est le mode judiciaire. Et l'idée, donc, qui est sous-jacente à la démocratie, est qu'on ne peut pas se rendre justice soi-même, et que donc, un assassinat n'est pas un événement que l'on peut essayer de modérer ou d'atténuer. Mais effectivement, j'ai bien lu les mêmes réactions que vous, Emmanuel Davier, et je me rends compte que ce parallèle était maladroit.
A posteriori, pensez-vous que votre chronique ait pu donner l'impression que vous défendiez même indirectement les idées de Charlie Kirk ?
J'ai l'impression que parmi les différentes maladresses qui peuvent être la conséquence de ce papier, il y a celle-ci, et c'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement changé le titre, je m'en suis expliqué également, et j'ai voulu faire ce visage de l'actu. Ce que je souhaitais faire, c'était beaucoup plus poser des questions qu'apporter des réponses. C'est raté. Je plaide à la fois coupable, et je demande l'indulgence pour le matinalier qui doit faire un papier chaque jour et qui... Et parfois, sur le fil du rasoir, le fil du rasoir ces temps-ci est de plus en plus acéré, Emmanuel Davier, et il est de plus en plus difficile, surtout dans une station, dans une radio publique, autrement dit, une radio qui n'est pas censée avoir des opinions, de donner son opinion. Vous voyez un peu le paradoxe dans lequel on se trouve lorsqu'on doit rédiger une humeur. C'est pas un édito, mais c'est souvent pris comme tel.
Merci Guillaume Herner d'avoir pris le temps de nous donner vos explications et d'avoir répondu aux questions des auditeurs.
Merci
à
beaucoup,
vous.
Emmanuel.
Guillaume Herner, donc au micro d'Emmanuel Davier, le rendez-vous de la médiatrice qu'on accueillera avec grand plaisir chaque mois, puisque ça fait aussi partie des promesses, de la promesse de cette émission, de comprendre comment les médias fonctionnent, de peut-être parfois reconnaître lorsqu'il y a une erreur et une fausse qui vient d'être faite par Guillaume Herner. Si on reste dans ce sujet-là et sur le contexte justement français, Tristan Boursier, comment les influenceurs que vous suivez donc depuis le Québec, mais que vous regardez de près, sont-ils emparés de Charlie Kirk?
Pour eux, ça a été une véritable occasion, une opportunité en fait de communication. Les jours qui ont suivi ont été pour eux l'occasion de s'exprimer, soit dans des formats courts, soit dans des formats plus longs. J'ai observé différents influenceurs français de premier plan qui ont pris la parole, notamment un qui s'est fait connaître lors de la commission parlementaire sur les violences faites sur les mineurs dans le cadre de TikTok. Donc Alex Hitchens qui a pris la parole, il y a aussi El Ryan et Valek qui a fait une vidéo aussi, qui est un des premiers influenceurs français et un des plus populaires aussi en termes de nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et leur réaction en fait elle est assez intéressante parce que elle reprend quasiment mot pour mot les éléments de langage de la sphère MAGA, ce qui est quelque chose d'assez nouveau pour la France, parce que habituellement, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à l'extrême droite en contexte numérique en France, on a quand même une histoire qui est longue de l'extrême droite en France, et on a donc des particularités idéologiques qui étaient jusque-là bien visibles. Et là, j'observe de plus en plus une fusion, une confusion avec l'idéologie MAGA.
Une fusion, justement, de l'extrême droite française sur l'espace numérique avec la sphère MAGA. Vous observez ça aussi, Marie-Cécile Nave ?
Une fusion sur certains sujets. Hein. Il y a des sujets comme la remise en cause de l'égalité femmes-hommes qui leur permet de se rejoindre assez fréquemment, hein, notamment les influenceurs qui viennent d'être cités. Et d'ailleurs, la remise en cause de l'égalité femmes-hommes, la remise en cause des droits des femmes, c'est très souvent une porte d'entrée vers la remise en cause de l'état de droit. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce que je trouve, ce qui m'a beaucoup frappée cette semaine, c'est assez souvent, je crois, la reprise de la propagande trumpienne dans les éditorialisation de certaines émissions sans prise de recul. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a quand même une fascination assez grande exercée encore par Trump dans nombre de médias. Je ne parle pas des médias en général parce que ça ne veut strictement rien dire. Je ne ferai pas cette généralité, bien entendu. Mais c'est un discours qui fonctionne, un récit qui, à force d'être répété, j'ai commencé par citer Bannon, je vais reciter Bannon qui ouvrait les guillemets et disait « il faut inonder la zone de merde », fermer les guillemets. Et bien finalement, ça marche assez bien. Et donc, ça nous interroge effectivement sur la manière dont on éditorialise les choses, dont on prend du recul par rapport à un discours politique qu'il faut savoir décrypter pour faire un pas de côté et mieux l'analyser.
Comment vous l'observez, Sébastien Mort, ce paysage médiatique français ? Ce n'est pas votre sujet d'étude, je le sais bien, mais quel parallèle vous pouvez faire ?
C'est vrai que dans la spécificité des médias conservateurs américains d'avoir une lecture identitaire des questions de société, donc c'est-à-dire indépendamment de leur teneur, c'est quelque chose qu'on a vu effectivement. Alors je sais pas si on peut utiliser le terme de migration, est-ce que ça a migré vers la France, mais en tout cas ce sont des ressorts rhétoriques et stylistiques qu'on voit apparaître dans des médias plus traditionnels sur la télévision du câble, où effectivement on cherche à toujours activer les ressorts de l'affectivité en mettant en avant la menace islamique, les rôles de genre traditionnels qui seraient mis à mal par le wokisme. C'est en fait une façon de repackager selon les spécificités culturelles du pays, quelque chose en fait qui est effectivement une sorte de tronc commun à ces deux écosystèmes. Après, effectivement, l'écosystème conservateur, l'écosystème des médias conservateurs en France, il est beaucoup moins développé qu'il ne l'est aux États-Unis. Il y a encore quand même une asymétrie entre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des médias traditionnels qui restent quand même fortement implantés avec un public qui se réunit autour du journal télévisé du soir. Et donc, il y a encore un centre de gravité informationnelle assez fort en France qui a complètement éclaté aux États-Unis.
Ça dépend dans quelle génération, hein, parce que les jeunes sont aussi vieux, ne regardent plus la télévision.
Alors tout ça fait partie des thématiques qu'on traitera à la radio tout au long de cette année, la recomposition du paysage médiatique français, puisque vous parlez de médias traditionnels, il y en a un, c'est Courrier International, il n'est pas que traditionnel, il est aussi en diapason de l'époque, très présent sur les réseaux sociaux, très présent dans tous les nouveaux contenus, et surtout présent dans la fabrique de l'information, c'est une première, et je suis très heureux de ce partenariat qu'on initie. Ingrid Tarwatt avec vous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour François.
Donc chaque semaine, vous allez nous parler d'un sujet qui est dans le courrier de la semaine en nous donnant quelques éléments contextuels. Ingrid, c'est à vous, vous nous parlez d'une lettre poignante écrite par une journaliste palestinienne qui a décidé de quitter Gaza.
Je pars car je refuse de mourir. C'est ce qu'écrit Ansa Malkita, journaliste à Gaza, dans une lettre publiée le 6 septembre 2025 dans The Continent et reprise le 16 septembre par Courrier International. Ces mots claquent comme un manifeste et résonnent comme un testament. On y entend à la fois le souffle coupé par les bombardements et la volonté farouche de rester debout, vivante, journaliste, malgré tout. Elle écrit, et je la cite, « Jamais je n'aurais imaginé mon stylo devenant ma planche de salut, mon téléphone un rempart derrière lequel je m'abrite de l'horreur des bombardements. » À travers son récit, ce n'est pas seulement une vie individuelle qui se raconte, c'est la condition entière d'une profession sous les bombes qui s'écrit. Dans Gaza City, qu'elle appelle cette ville de vie ou de mort, exercer le métier de journaliste n'est plus simplement un métier à risque, c'est un métier de vie ou de mort.
Alors que raconte Ansa Malkita dans cette lettre ?
Alors elle raconte ses pas anxieux chaque matin lorsqu'elle enfile son gilet pare-balles. Il n'est plus un bouclier protecteur, il est devenu un stigmate. Voici ce qu'elle explique. Le casque et le gilet pare-balles ne sont plus des équipements destinés à me protéger en tant que journaliste, ce sont les emblèmes d'un danger imminent. Je tremble parfois à l'idée d'enfiler le gilet, pas à cause de son poids, mais parce qu'il me désigne comme journaliste dans un endroit où toute personne rendant compte de la vérité est une cible. Elle raconte le toit de sa maison, où il faut tendre le bras le plus haut possible pour capter un filet de réseau et envoyer un reportage avant que les bombes ne couvrent sa voie. Elle raconte les familles décimées, les rendez-vous pris et annulés par la mort, 4 enfants disparus avant même qu'elle n'arrive pour les interviewer. Et elle raconte surtout l'intime. Le 4 novembre 2023, son neveu de 17 ans, blessé par balle, laissé à l'agonie dans une rue classée zone rouge, son corps impossible à relever pendant 3 semaines. « Je n'ai pas pu lui dire au revoir, se souvient-elle, ni lui prendre la main. Chaque récit de mort me ramène à lui, chaque image de cadavre me rappelle le sien. » Et c'est là la force de ce texte, le va-et-vient constant entre l'expérience collective et la plaie personnelle. « Quand j'écris sur les autres, explique-t-elle, c'est aussi sur moi que j'écris. »
Alors ce témoignage bouleversant s'inscrit dans un contexte particulièrement meurtrier, y compris pour les journalistes.
Tout à fait. Et pour cette raison, ce témoignage ne doit pas rester suspendu à l'émotion. Il faut aussi mesurer l'ampleur du drame. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 220 journalistes ont été tués à Gaza, selon Reporters sans frontières. Parmi eux, au moins 56 ont été directement dans l'exercice de leur travail. Le mois d'août 2025, à lui seul, a vu plus de 12 journalistes perdre la vie. Le 25 août, une frappe a touché l'hôpital Nasser de Khan Younes, tuant 5 reporters dont 3 travaillaient pour des agences internationales. Gaza est aujourd'hui l'un des endroits les plus meurtriers au monde pour la profession de journaliste. Et c'est presque exclusivement grâce aux journalistes locaux que l'information circule. Les reporters étrangers n'ont, dans leur immense majorité, pas accès à Gaza. Les rares qui y rentrent doivent passer par des autorisations israéliennes extrêmement restrictives. Conséquence, la presse internationale dépend de ces voix locales, de ces femmes et de ces hommes qui risquent leur vie chaque jour pour que la vérité franchisse les murs. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête sur un détail essentiel. Cette lettre nous est parvenue par le biais d'un média sud-africain, pas européen, pas moyen-oriental, sud-africain. Et c'est déjà tout un symbole. Vous en souvenez peut-être, François, c'est l'Afrique du Sud qui a déposé fin 2023 la plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide. The Continent, donc, est un média sud-africain, je vous le disais, un hebdomadaire numérique lancé en 2020, adossé au très réputé quotidien Mail & Guardian. Il est disponible gratuitement au format PDF et pensé pour être partagé sur les réseaux sociaux. Son objectif est d'offrir un journalisme de qualité, accessible et transnational, en couvrant des sujets que les médias occidentaux traitent souvent peu ou mal. Et c'est un signe. Pour entendre Gaza, il faut parfois passer par Johannesburg ou le Cap, preuve que de la raréfaction des canaux d'information directs depuis cette enclave.
Alors que signifie ce texte ?
Il signifie qu'écrire devient un acte de survie, qu'informer devient une manière de rester vivant. Et qu'à Gaza, le journalisme n'est pas seulement une profession, c'est un combat contre l'effacement, contre l'anonymat, contre la disparition pure et simple. À la fin de sa lettre, elle écrit « Nous ne sommes pas des numéros, nous voulons que nos voix soient entendues, nos récits racontés, notre humanité respectée. Et c'est bien là notre responsabilité collective, faire que ces voix continuent d'exister. Car quand les journalistes meurent, quand les rédactions sont détruites, quand les accès sont fermés, ce ne sont pas seulement des vies qui disparaissent, c'est la possibilité même de savoir, de comprendre, d'entendre. » La société des journalistes de Courrier International s'est d'ailleurs associée à la mobilisation internationale, à l'initiative de Reporters sans frontières, du mouvement citoyen Avaz et du Committee to Protect Journalists, pour que cessent les meurtres des professionnels palestiniens de l'information à Gaza. La lettre d'Ansa Malkita, publiée loin de Gaza, mais traduite et relayée jusqu'à nous, est un appel. Un appel à refuser l'indifférence, à rappeler que la liberté d'informer est une condition démocratique, pas un luxe, et à affirmer que la presse n'a pas vocation à se taire, même sous les bombes. « Je refuse de mourir », écrit-elle. Ces mots ne sont pas une conclusion, mais une injonction. Ce refus, ce sursaut, nous oblige. À nous de faire en sorte qu'il ne se transforme pas en épitaphe.
Merci beaucoup Ingrid Terwatt de la rédaction de Courrier International. Gaza est également une de votre numéro de la semaine, Gaza. ou la faillite de l'ONU. Et c'était un premier témoignage, une première chronique très forte pour lancer donc ce partenariat avec la Fabrique de l'Information. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour ce sujet. Tristan Boursier depuis le Québec, Marie-Cécile Nave et Sébastien Mort en studio. On va continuer à suivre les retentissements de Charlie Kirk. Hein. J'ai bien entendu ce côté inouï et sans précédent. Donc ce paysage se recompose, se décompose et nous le suivrons dans la Fabrique de l'Information où je remercie Joséphine Reynard à la préparation, Camille Mathy à la réalisation, à la technique, Grégory Wallon et à la vidéo, Vincent Tonnet.